Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Kylian Verhove.
Salut à tous, le prince de Silverstone, c'est lui, j'ai nommé Charles Leclerc. Bienvenue dans votre débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une course folle, un finish étrange, il faut le dire, des faits de course à l'appel aussi. Un quadruple champion du monde dans les graviers, un leader du championnat frappé par la malchance, une safety car qui crée la controverse, mais surtout, le premier titre en Formule 1 de Charles Leclerc depuis le Grand Prix des États-Unis en 2024, soit 623 jours de disette, 37 courses sans victoire, son 9e sacre en carrière. Lui qui n'avait jamais gagné ici à Silverstone. Régulièrement remis en question ces derniers temps, fréquemment comparé aux performances de la légende Lewis Hamilton, le Monégasque a répondu de la meilleure des manières. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'avoue que j'ai toujours rêvé de dire ça, notre team principal, Jean-Luc Roy from Miami. Salut Jean-Luc.
Oh bah salut mon Kylian, quel hommage, quelle entrée fantastique. Écoute, bah bonjour à toi, bienvenue, bonjour. Bienvenue sous les feux des projecteurs.
Merci.
Pendant que Nico est en train de bronzer au soleil. Et puis... Bienvenue au personnage que tu vas nous déployer maintenant et nous dévoiler maintenant.
Ah bien sûr, d'habitude tu as l'habitude de m'entendre dans tes oreilles.
Absolument.
Là je suis face à toi, on peut le dire. Et un petit bisou à Nico quand même qui,
tu l'as dit,
lui il n'a pas attendu le break de l'été en Formule 1 pour aller se dorer la pilule au soleil.
Est-ce qu'on peut dire que tu as bénéficié de l'adieu?
Totalement.
Tu étais derrière en tant que parole.
Totalement.
Par rapport à Nicolas.
Mais totalement. Non. Là, c'est au mérite.
Non, mais il faut dire qu'il était quand même sur les rotules depuis un certain temps. Alors, on va le laisser se reposer, changer l'aileron Macarena. Et puis, il reviendra.
Pas notre Fernando Alonso, tu vois.
Et il est en vacances avec sa Balenka qui se remet de ses émotions.
Et puis, vous l'avez entendu,
il
est avec nous, notre ingénieur. Il n'était pas venu depuis un certain temps. Arnaud Valadon.
Salut, ouais, j'étais au WEC, tu vois, de la vraie course automobile.
Il y a
24 heures du Mans, là, il y a Sao Paulo, il y a le Brésil qui arrive. Salut à tous.
Les vraies courses, quoi. Toi, t'es loin de tout ce qui est électrique, tout ça, maintenant.
Exactement, tu vois, je ne veux pas mettre les doigts dans la prise.
Petit rappel avant de démarrer cet épisode, évidemment, un grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux à nous suivre aussi sur la page Instagram du Paddock RMC. Bientôt 20 000 abonnés juste après ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça se fête. Merci à tous. Et maintenant, évidemment, retour sur la victoire du grand Charles Leclerc. Avant de vous donner la parole, messieurs, sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, un point sur les classements. Charles Leclerc l'a emporté, donc, devant George Russell et Lewis Hamilton. Les écarts sont évidemment infiniment petits. On va y revenir à cause de cette safety car qui est restée en piste jusqu'à la fin de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Lando Norris finit quatrième, Isaac Hadjar cinquième. Derrière, on a les Racing Bulls, Liam Lawson et Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto qui ramène un petit paquet de points à Audi, ce qui est assez rare. Franco Colapinto et Pierre Gasly terminent eux aussi dans les points. 9e et 10e, c'est plus compliqué pour Oscar Piastri. 11e, Berman 12e, Ocon 13e, Perez 14e. Antonelli qui a souffert durant ce Grand Prix finit uniquement 15e. Et puis derrière, on a Bottas, Sainz, Alonso, Stroll. Et puis trois abandons, Verstappen, Albon et Hülkenberg. Au championnat des pilotes, Kimi Antonelli se fait un petit peu rattraper. Il est à 179 points. George Russell est revenu à 154, Lewis Hamilton 147, Charles Leclerc 108. Derrière, on a les McLaren, les Red Bull, Pierre Gasly qui pointe à la 9e place avec 42 points. Et puis les Racing Bulls, 10e et 11e, 39 et 20 points. Du côté du championnat des constructeurs, Mercedes toujours devant avec 333 points, mais Ferrari qui fait un beau retour en force avec 255 points. On va en parler dans cet épisode, évidemment. McLaren qui reste 3e avec 179 points, suivi par Red Bull, 128, Alpine, Racing Bulls, AS, Williams, Audi, Aston Martin, Cadillac, dans cet ordre-là, pour ce championnat des pilotes. Je l'ai dit, messieurs, 37 courses sans victoire depuis le Grand Prix des États-Unis à Austin en 2024. Et forcément, à l'arrivée, il était comme un dingue, Charles Leclerc.
And tough times never last.
Let's go!
Only tough people
last. Let's go!
I will go.
Oh, finally. This one feels particularly good. Even though I wished a bit of a more normal ending, but hard work pays off. And as you said, tough time never lasts. Only tough people left.
Complètement zinzin, Charles Leclerc, il a pété une durite. Je pense que ça lui a fait du bien après deux ans de galère à la radio. On l'a entendu, le travail paye. Celle-là fait extrêmement du bien. On est d'accord, Jean-Luc, elle va lui faire un bien fou à Charles Leclerc, cette victoire.
Ah, absolument. Bah, écoute, c'est fantastique. De toute manière, une victoire en Formule 1, c'est toujours fantastique. Tu as donné tous les chiffres, hein. La 9e depuis aussi longtemps. Il avait en plus été accablé par le sort. Lui-même ne comprenait plus, et les pilotes ne peuvent pas évidemment se livrer entièrement, mais il a tellement traversé un désert, là on peut le dire, et surtout au moment où précisément son équipier qu'il ultra dominait l'an dernier, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, lui retrouve de la flamboyance avec cette magnifique victoire en Espagne. Donc là on entendait déjà, ah oui ça y est, Leclerc il est fini, enfin bon, les gens sont trop prompts à, je dis souvent, avec ce règlement en plus, tout peut changer véritablement, puisque nous faisons des pronostics, je vais rebondir là-dessus, mon Kylian, et tu nous le demandes et tu as raison, mais ça ne sert à rien. Mais vous pouvez demander à votre petite cousine de 3 ans et demi de regarder les photos des pilotes et d'appuyer sur celui qui a un grand sourire et qui lui paraît le plus sympathique, parce que c'est là, vous savez à quel point j'aime Charles Leclerc pour plein de raisons, je le connais bien, c'est un type formidable au-delà du pilote, donc bah oui, on est toujours un peu partial dans ces cas-là. Bah, je l'avais mis dans mon trio et pas là, parce que je me suis dit, bah non, Ferrari dans son ensemble, même Lewis Hamilton, Fred Vasseur, tout le monde a dit, on va pas mettre un pied devant l'autre sur un circuit comme celui-là, où de surcroît, et on va en parler un peu plus tard évidemment, où de surcroît, les défaillances qui sont dues à ce nouveau règlement apparaissent criantes. Et bah non, c'est l'inverse qui se produit pratiquement, et Ferrari l'emporte avec 2 machines sur le podium. Donc tout peut arriver, c'est totalement imprévisible. Tant mieux si ça profite à Charles, ça lui permet de se remettre en selle dans tous les sens du terme, de revenir au championnat. Ça permet à Ferrari, tu l'as signalé bien sûr, de revenir un petit peu au contact, parce que je craignais que vraiment au moins au championnat constructeur on s'ennuie énormément, pour rester poli. La Ferrari est solidement implantée en deuxième position. Et puis quand les rouges fonctionnent, quand les rouges marchent, bah, c'est toute la Formule 1 qui, j'allais dire, peut masquer les autres problèmes. Donc bravo à Charles et réjouissance formidable. Revanche peut-être pas, mais c'est mérité.
C'est ce que j'allais te demander, Arnaud. Il y a du soulagement, certes, on l'entend dans cette libération dans la radio, mais est-ce qu'il y a un petit peu de revanche envers toutes les critiques qu'il a pu subir ces derniers mois?
Non, je pense pas, parce que quand t'es pilote de Formule 1, t'es toujours exposé à la fois aux louanges, mais aussi aux critiques. Par contre, évidemment que ça le pesait. Plus de 2 ans, plus de 600 jours, que de voir Lewis Hamilton, qui était systématiquement devant lui en course, ça faisait 5 courses de suite depuis le podium de Charles Leclerc à Suzuka. J'espère qu'il y a un déclic, et ce déclic, paradoxalement, il est peut-être venu des qualifications pour le Grand Prix, parce qu'en sprint, on a finalement vu encore un Lewis Hamilton très rapide devant. Et ben, Charles Leclerc, lui, il a amélioré son temps en qualification par rapport à la qualif sprint, il a gagné des dixièmes, à l'inverse de Lewis Hamilton, et j'ai l'impression qu'il a peut-être enfin trouvé quelque chose, un ressort sur cette voiture qui est une bonne voiture, parce que quand tu vois Lewis Hamilton performer, tu te dis, tu le mets la même voiture. Je ne vois pas pourquoi Charles Leclerc devrait être aussi loin, ou en tout cas, devrait être proche de Lewis Hamilton.
Parce surtout qu'il continue de l'améliorer de week-end en week-end.
Oui,
et
d'apporter c'est
des
quand
améliorations
même deux pilotes au talent comparable. Même s'il y en a un, évidemment, cette fois champion du monde. Et Charles Leclerc, il a tout pour être champion du monde un jour. En tout cas, évidemment, on le souhaite de tout cœur. Donc, franchement content. Et quand Jean-Luc dit qu'il y en a 2 sur le podium, il aurait dû y en avoir 2 sur les 2 premières marches. Hein. Il doit faire 1 et 2, hein, P1 et P2.
On y reviendra.
Donc,
bien sûr.
Franchement, content pour Charles Leclerc, content pour Ferrari. On sent aussi quand même une belle alchimie. Ils sont quand même contents d'être ensemble. Quand je vois un peu ce qui se passe à Mercedes, qui est pourtant en tête du championnat du monde des pilotes, qui a un pilote, ils sont 1 et 2 au classement des pilotes, j'ai l'impression qu'on voit un peu 2 salles, 2 ambiances. Donc j'ai hâte de vraiment voir la suite du film, savoir est-ce que ça va confirmer cette embellie de Ferrari qui reste un petit peu loin au classement des constructeurs, mais il doit y avoir, je crois, c'est 80 points. Ils ont 70 points d'avance ensuite sur McLaren. Bon, franchement, je suis content parce que ça nous met quand même du suspense. On s'attendait, et Jean-Luc l'avait dit, sur un circuit pro-Mercedes, la puissance, le moteur. C'est vrai qu'on a vu un petit peu l'inverse. Et je ne sais pas si vous avez vu cette stat de Lewis Hamilton. Je crois à partir du virage 7, il ne freinait plus. À partir du deuxième secteur, et Max Beckett, tout ça. À partir du hangar, je crois, de la ligne droite du hangar, il ne freinait plus. Incroyable.
C'est grave, docteur, c'est grave.
Jean-Luc, est-ce que on peut s'attendre à justement un déclic de la part de Charles Leclerc? Est-ce que ça peut enfin lancer sa saison? Ou est-ce que c'était un one-shot du fait, on y reviendra juste après ça, du contexte et des différents faits de course? Est-ce que c'est quelle marque on peut imprégner à cette victoire-là au vu de tout ce qui s'est passé?
Alors, lui, personnellement, bien sûr, hein, comme nous l'avons dit, comme nous venons de le dire, ça l'a remis en selle. Il n'avait pas de doute sur son talent, sur sa performance. C'est exactement les mots qu'utilise Fernando Alonso. On en dira peut-être un mot tout à l'heure, qui est nulle part. Heureusement, les pilotes ont cette force de caractère et cette honnêteté. Et alors là, Charles, c'est peut-être le number one. Lui, il est champion du monde de l'honnêteté. Je crois que Verstappen aussi, ils sont tous les deux en haut du podium. Vous les avez, moi, je ne les ai jamais entendus bidonner, ce qui s'appelle bidonner, c'est-à-dire dire le contraire de la vérité ou masquer la réalité. Parfois trop, d'ailleurs.
Il y avait trop de sincérité.
Voilà, trop de sincérité, trop presque d'accablement contre lui-même, trop de... Bon, il se tape sur la tête, Alors, peut-être il a besoin de ça, hein. Chacun a un ressort psychologique pour se dire « j'ai fait une erreur », c'est un peu ce qu'a fait Antonelli, hein, si vous vous rappelez, dans un autre genre totalement différent. Mais je veux dire, il a commis des erreurs en Autriche, il a dit « j'ai appris, je le ferai plus », etc. Bon, ok, donc ça s'appelle l'expérience. Et quel que soit l'âge, quel que soit le parcours et quels que soient les titres, eh bien je suis persuadé que même Lewis Hamilton et Fernando Alonso apprennent, eh bien Charles Leclerc, pour en revenir à ta question, mon Kylian, eh bien il est toujours en train d'apprendre. Et là, il a traversé ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps, hein, puisqu'il est chez Ferrari depuis 2019. Il avait rapidement réglé Vettel à l'époque. Enfin bon, Sainz, il n'était pas trop menacé. Hamilton non plus. Et ben là, il a rencontré une situation qu'il ne connaissait pas. Et comme vous le savez, chez Ferrari, tout est amplifié, tout est puissance 10. Donc ça a pris des allures de drame national. Bon, ça le remet en selle. Allez, on est qu'au 9e Grand Prix. Vous allez voir qu'on va, j'espère, arriver au moins au 22, mais peut-être au 23 ou 24. Donc on a encore de quoi se régaler.
Il y a le contrat qui a été aussi vite prolongé. Donc même si tout est amplifié, Jean-Luc, la confiance était là. Voilà.
Oui, mais t'as un poids quand même.
Ah, mais chez Ferrari, on n'a jamais douté. Hein. Oui. Je pense que Fred Vasseur et personne n'a jamais douté du talent de Charles. Simplement, bah, il avait la poisse. Quoi. Le chat noir, comme dit Verstappen, il a dû écraser un chat noir.
T'as parlé, Jean-Luc, de cette liberté de penser, cette liberté de parler aussi de Charles Leclerc. Juste après sa victoire, il l'a évoqué au micro du diffuseur.
Je suis vraiment heureux parce que c'est vrai que j'ai toujours été... extrêmement honnête avec ce que je ressens, avec ce que je fais, mais bon, d'un côté aussi ça m'expose un petit peu parce que quand je dis après la course sprint je pense avoir trouvé quelque chose, on va voir si ça fonctionne, mais je suis quand même confiant. Il fallait ensuite le prouver en piste et hier ça s'est super bien passé en qualif et j'avais encore ce doute de la course, est-ce que le feeling va être bon en course, et le feeling était super bon aujourd'hui en course, donc je suis vraiment vraiment heureux parce que ça a été compliqué récemment et on a tellement travaillé, je sais que de l'extérieur ça se voit pas forcément des fois parce qu'on mais bon on a fait absolument tout pour essayer de retrouver ce feeling avec la voiture et aujourd'hui c'était vraiment le cas, donc vraiment reconnaissant de tout le boulot que le team a fait. C'était pas facile pour moi, mais pas que pour moi, aussi pour le team qui s'occupe de moi tous les jours et voilà, je suis vraiment content qu'on soit de nouveau sur la plus haute marche du podium. On a eu de la réussite aujourd'hui, mais bon, il en faut des fois aussi un petit peu avec Kimi, le problème de Kimi, je pense que ça aurait été compliqué de le garder derrière, mais une fois que Kimi a eu son problème, je me suis dit bon ben là maintenant il faut juste que je gère la voiture. J'ai dit à la radio je vais pas prendre de risque, je vais pas prendre les vibreurs, on va essayer vraiment de faire vraiment gaffe. J'avais entendu dire qu'il y avait une Mercedes qui avait eu une crevaison aussi, donc il fallait vraiment faire gaffe. Et là après le safety car, c'était pas super sympa à avoir cette nouvelle dans la voiture. Je pense qu'on n'a pas dû dépasser les 140 km/h à partir du moment où je suis arrivé derrière le safety car. J'étais la première voiture derrière le safety car. Mes pneus, ils étaient complètement gelés. Donc s'il y avait un restart, ça aurait été extrêmement compliqué. Mais bon, à la fin, on a quand même gagné. Donc je suis vraiment content.
Énormément de choses à retenir de cette prise de parole de Charles Leclerc, je trouve. Arnaud, vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que Charles est trop honnête? Est-ce que ça peut le mettre en danger par moment, comme il a pu le dire?
Non, parce que c'est quand même des types qui roulent à 300 à l'heure, donc être un peu trop honnête après un Grand Prix, voilà, c'est aussi sa façon d'extérioriser, aussi quand il parle aux médias, il parle aussi à son écurie, à ses ingénieurs, à ses mécanos. Donc tout ça, pour moi, fait aussi
mais
une
unité. Mais il parle aussi aux ingénieurs des autres équipes et aux autres écuries qui ont aussi une oreille sur les développements que peuvent faire Ferrari. Et tiens, Charles Leclerc se sent mieux, c'est lui qu'il faut viser et non pas Lewis.
Oui, bon après, c'est toujours un petit jeu, le chat et la souris, chacun, les déclarations. Bon, tu vois, quand tu vois les déclarations de Max Verstappen aussi, voilà, c'est des mecs entiers, c'est pour ça aussi qu'on les aime. C'est vrai que des fois, quand, je trouve qu'il en fait parfois un peu trop, mais il donne et c'est ce qui les rend humains aussi.
Bien sûr. Voilà,
c'est pas parce qu'ils sont à 350 en ligne droite et qu'ils vont freiner à 150 mètres.
C'est pas des
robots. Voilà, mais moi je suis très content et c'est pour ça qu'on l'adore, parce que c'est quelqu'un d'entier, de vrai, et qu'on est, je pense, tous très contents aussi de sa victoire et qu'on a hâte de voir un petit peu la suite pour Charles Leclerc.
Il a évoqué aussi cette bataille entre guillemets avec Kimi Antonelli, sans vraiment parler de ce qui est arrivé au pilote Mercedes, au jeune Italien qui brigue cette première place au championnat des pilotes. Jean-Luc, est-ce que sans ce qui lui est arrivé à l'Italien, Charles Leclerc l'aurait emporté quand même, ou est-ce que Kimi Antonelli aurait fondu sur Charles Leclerc et cette victoire est aussi due entre guillemets à la malchance qui a frappé Kimi Antonelli?
Eh bien, écoute, c'est un tout. Hein. On a une bonne partie de la réponse. Bah, à l'issue de cet arrêt au stand tardif, hein, volontairement, pour Antonelli, puisqu'il s'est arrêté globalement une dizaine de tours plus tard, on a arrêté Charles vers le 26e tour, vers le 25e pour être précis, et on a arrêté Antonelli au 35e. Donc, ça veut dire, par parenthèse, et il continue à faire d'excellents chronos. Ça veut dire que l'équilibre et l'efficacité de la Mercedes, en tout cas celle d'Antonelli, était absolument sidérante, puisque même à ce moment-là, avec des pneumatiques médium, tout le monde est parti en médium. Hein. Par parenthèse, ça vaut le coup d'être souligné, parce que là, les stratégies, il n'y en avait pas, on est parti en médium, et puis après, on a vu, en fonction de l'évolution, si on arrêtait un peu plus tôt, un peu plus tard, en principe, on mettait les durs, bon, certains ont tenté des choses un peu bizarres en essayant peut-être de faire des stratégies décalées, mais il n'y avait pas matière. Hein. On rappelle que Silverstone, c'est un circuit que tout le monde connaît très très bien, depuis très longtemps, il y avait du vent, alors il faisait chaud, mais pas excessivement par rapport à ce qu'on a connu précédemment, il y avait du vent qui pouvait effectivement favoriser telle ou telle monoplace dans telle ou telle configuration, notamment aérodynamique. Mais bon, on ne va pas entrer là-dessus. Alors, ta question, c'était, est-ce que Kimi Antonelli s'est revenu ? Ben oui, il avait déjà repris à peu près la moitié de son retard au moment où effectivement il a connu ses problèmes, au moment où on a dû l'arrêter un peu en catastrophe pour d'abord changer tout le museau. Et en fait, il semblerait que le problème, d'après les dernières analyses, venait d'un système de refroidissement du frein, enfin une petite pièce en carbone qui s'était coincée dans la direction et qui empêchait Kimi de tourner le volant, tout simplement. Ça perturbait naturellement l'appui et l'équilibre de la voiture, mais en plus, physiquement, mécaniquement, je dirais presque, ça l'empêchait de tourner le volant. Donc évidemment, le pauvre, il se battait avec ça, il comprenait pas, il disait la suspension est cassée, on l'arrête une première fois et on essaie de réparer ça, on change, on l'arrête une deuxième fois très rapidement pour continuer, c'est-à-dire deux tours après, et là effectivement on semble à peu près avoir résolu le problème, même si sa monoplace est difficile à mener. Mais c'est clair que oui, il était revenu à 3 secondes et demie, hein, de mémoire. Je pense qu'il aurait refait son retard. Serait-il passé? Après, il y a toute cette question, et on va l'aborder évidemment dans mon carton rouge, on va appeler ça comme ça, de développement de la puissance avec des monoplaces qui, de manière erratique, je dirais, rendent ou ne rendent pas totalement ce qu'elles ont donné. Oui, je pense que le rejoindre, évidemment, le dépasser, je pense qu'il aurait fini par le passer, oui, parce que l'équilibre de la Mercedes était bien meilleur que celui de la Ferrari au global.
Après, il faut quand même dire un mot du départ, où là, il n'est pas bon.
J'allais venir, justement. On parlait de dépasser, etc. C'est une image quand même marquante, je trouve, de ce départ tonitruant des Ferrari. Kimi Antonelli qui n'a rien pu faire, Charles qui est ressorti en tête, et puis derrière il y a eu ce petit écart qui s'est créé entre Charles et Lewis, et on a quasiment l'impression que Lewis a eu entre guillemets cette idée stratégique de freiner un tant soit peu Kimi pour l'empêcher de revenir trop vite sur Charles Leclerc. Est-ce qu'on est sur ça, Arnaud, Jean-Luc?
Ouais, après, bon, on n'oublie pas quand même le petit départ volé de Lewis Hamilton.
Bien sûr,
hein, il a fait 5 secondes de pénalité. Après, on sait que les Ferrari, ils ont trouvé un truc depuis le début sur les départs où ils sont tonitruants. Voilà, ils ont une puissance. Donc il suffit que tu allies le bon temps de réaction et généralement, tu arrives à gagner au minimum une place. Ils sont tous les deux devant. On est en début de course aussi. Il y a les stratégies de déploiement d'énergie. Donc voilà, mais c'est vrai que Jean-Luc l'avait dit, ensuite Antonelli avait énormément de rythme, même une fois les gommes neuves pour les autres et les deux Ferrari sur ces médiums. Ça fait partie des circonstances de course. Et aussi, c'est l'avantage d'être en début de réglementation. On a des voitures qui ne sont pas infaillibles. C'est vrai que l'année dernière, bah, tu avais jamais de casse, tout le monde maîtrisait la réglementation. Donc voilà, ça fait partie. Bah voilà, un petit bout, je crois que c'est un petit bout de carbone de l'écope de frein, ouais, qui a dû se coincer. Tu vois, il y a toujours des abandons dans ces grands prix. Ça fait partie un petit peu. Voilà, Ferrari a provoqué. Ils sont fiables, hein, les Ferrari. Les Mercedes, c'est pas la première fois qu'on a connu quelques petits pépins. Hein. On a pratiquement, alors pas un week-end sur deux, mais on a un pilote qui finit souvent à zéro point, des deux au moins chez Mercedes.
C'est vrai. Et puis Lewis, Jean-Luc a quand même affirmé en conférence de presse, on sait que ça fait quelques grands prix maintenant depuis qu'il performe, qu'il ne s'est pas appuyé sur le simulateur pour se préparer pour ses grands prix, et il a affirmé en conférence de presse d'après course qu'il avait conseillé à Charles d'en faire de même. Ça prouve quand même l'importance de la relation qui règne entre les deux hommes et aussi l'importance du simulateur dans cette saison.
Oui, alors Il y a heureusement il y a toujours eu de bons rapports entre les deux pilotes. Hein. L'an dernier, si vous vous rappelez, quand Hamilton était dans la difficulté, Leclerc ne l'a jamais enfoncé, au contraire. Il a dit, bah oui, c'est normal, c'est une nouvelle équipe, nouvelles habitudes, il faut s'y faire. La langue, parfois aussi, il ne parle pas forcément italien, alors que Charles parle italien, et puis il est chez lui, encore une fois, depuis longtemps. Bon, et cette fois, bah, là, Lewis était un peu désolé de voir aussi Charles en perdition depuis quelques Grands Prix, et a essayé de l'aider. Alors, ce qui marche pour l'un, ce qui fonctionne plus exactement pour l'un, ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Hein. Vous savez bien que les enseignements, j'allais dire, à éléments de développement équivalents, c'est-à-dire les fameux simulateurs, certains sont capables de reproduire tel ou tel circuit, telle ou telle configuration, et les pilotes sont capables d'en tirer les leçons, j'entends pour eux-mêmes, et puis d'autres, beaucoup moins, parce qu'effectivement, un simulateur, ben, tout est dans le nom, ça simule, point final, c'est-à-dire que ce ne sont pas les conditions réelles, il y a tout un tas d'éléments, ne serait-ce que le feeling du pilote, même si on a incroyablement progressé dans ce domaine-là. Mais c'est la raison pour laquelle je dis, moi, personnellement, je préfère n'importe quelle course avec des véhicules à moteur, évidemment, vous me voyez venir, thermique, évidemment, même de faible performance, que n'importe quel simulateur. Parce qu'on ressent personnellement, physiquement, tout un tas de choses qui sont indescriptibles et qu'on ne pourra jamais reproduire en simulateur. Donc, ce qui a fonctionné, pour revenir à ta question, mon Kylian, ce qui a fonctionné pour Lewis, tant mieux, ça leur a permis de recoller au peloton, j'allais dire, et maintenant de réaliser des performances remarquables, avec cette monoplace qui a totalement évolué également, il faut le rappeler une nouvelle fois, en 2026, hein, et qui n'a plus rien à voir avec celle de 2025. Bah, justement, le feeling des pilotes, le ressenti des pilotes, la manière de piloter de chacun est plus en accord avec tel ou tel moment, telle ou telle réglementation, telle ou telle. On ne va pas remonter et refaire toute l'histoire de la Formule 1, mais je peux vous parler de différentes époques où, effectivement, il y a des pilotes qui, pour se révéler, ont eu besoin de certaines évolutions de réglementation. Voilà ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé pour Lewis, et on espère que Charles a retrouvé tout le potentiel, et notamment en qualif, hein, qui était quand même absolument formidable, et je dis qu'il était, mais qu'il est encore, 27 pôles, c'est quand même pas rien.
Et puis, autour de cette victoire, évidemment, on en est tous satisfaits, on est tous contents de cette victoire de Charles Leclerc, mais il y a tout un contexte, énormément de faits de course, et c'est là qu'intervient ton carton rouge, Jean-Luc.
Oh yes, ladies and gentlemen, now we're...
Il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Les moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Est-ce qu'on commence par cette controverse de fin de course, mon Jean-Luc? Un mot sur la fin de ce Grand Prix. Quand même, on va planter le décor et réexpliquer à nos auditeurs ce qu'il s'est passé. Après la sortie de piste de Max Verstappen à 6 tours de la fin, la voiture de sécurité a été évidemment déployée pour pouvoir retirer la Red Bull des graviers dans lesquels elle était. Plusieurs pilotes ont choisi évidemment de passer par les stands en espérant une relance avant la fin de la course pour un, voire potentiellement deux tours. Et puis à la fin du 51e, sur 52, on le rappel, est apparu un message indiquant safety car in this lap, aussi bien du côté de la direction de course que sur les écrans de diffusion et les diffuseurs du monde entier. Tout le monde s'attendait à ce que la voiture de sécurité sorte donc avant la fin et avant le dernier tour.
Avec des retardataires qui étaient déjà passés.
Avec potentiellement des retardataires.
Qui sont passés devant tout le monde.
Exactement. Sauf qu'elle ne s'est pas arrêtée du tout. La course a été neutralisée jusqu'au bout et après coup, la FIA a évoqué un bug logiciel et donc un message qui aurait été envoyé par erreur. Jean-Luc, je sais que tu voulais évidemment réagir sur ça et élargir plus globalement à tout ce qui s'est passé sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
Absolument, et même au-delà, mon Kylian, une nouvelle fois, en guise de préambule, je dirais, vous êtes absolument libre de ne pas partager mon opinion, mais je peux vous dire que là, mes opinions, parce qu'il y en a plusieurs, elles vont être tranchées. Alors, âme sensible, eh bien, vous pouvez aller un peu plus loin dans ce podcast. Alors, je commence, puisque ta question porte sur la fin de ce Grand Prix. Écoute, c'est invraisemblable, c'est une accumulation d'erreurs, de gaffes, qui confine au ridicule. Ce qui est grave, c'est que ça hypothèque évidemment les efforts de milliers de personnes, nous l'avons dit, de centaines de milliers de spectateurs. Il y en a eu, je crois, 565 000 au total
du record.
En Grande-Bretagne, un record absolu en Formule 1. Et
depuis Melbourne, dans les années 90.
Voilà. Et puis des millions de téléspectateurs et des observateurs, j'ose dire toujours privilégiés que nous sommes, mais privilégiés, tout le monde l'est aujourd'hui. Hein. Tout le monde peut avoir accès aux mêmes données que les nôtres. Alors là, c'est un pataquès absolument invraisemblable. Jusqu'à quand ? Imagine-t-on, on est en pleine Coupe du Monde de football, imagine-t-on un match avec un suspense invraisemblable ? Vous les regardez comme moi, on vibre jusqu'au bout, parce que tout peut arriver jusqu'à la dernière seconde. Eh bien, en Formule 1, non. On a trouvé un système, maintenant, où il suffit que, effectivement, alors, bug informatique, on annonce la fin du safety car, et finalement, c'est pas le cas. Mais l'explication est lamentable, grotesque, clownesque presque. À ce niveau de professionnalisme, on en est là. Mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, et vous me voyez venir, c'est la vie des pilotes qui est en jeu là-dedans. Alors, les circonstances, évidemment, peuvent être dramatiques. J'ai vécu, et vous le savez, extrêmement douloureusement, le dernier accident, et je touche du bois en disant ça, mortel en Formule 1, celui de Jules Bianchi, à terme évidemment. J'ai vécu ce pataquès à l'époque, là aussi, de la direction de course lamentable, qui a commis une erreur invraisemblable, alors que jamais ce Grand Prix n'aurait dû se poursuivre. Il aurait dû s'arrêter au tour précédent. Bon, peu importe, ça a coûté malheureusement la vie au pauvre Jules Bianchi. Donc on évite ça, ça je le comprends très bien. Souci de sécurité. Mais là, on est arrivé à un point. D'abord, si des commissaires sur un circuit comme Silverstone, alors qu'une monoplace est immobilisée dans un bac à sable, il y a des engins pour l'enlever à 15 mètres de là, on n'est pas foutu, permettez-moi le mot, avec 7-8 minutes de dégager cet engin. Mais c'est insensé. Alors, si on n'est pas foutu de le faire, et ça peut être le cas sur d'autres circuits, parce que, et je rends toujours hommage au commissaire, il doit y avoir des raisons, bah dans ce cas-là, c'est à la direction de course de prendre les mesures, c'est-à-dire qu'on arrête la course au drapeau rouge et on redonne un départ pour 2 tours, pour 3 tours, mais on n'arrive pas sous neutralisation. Charles l'a dit, cette victoire, la 9e, bah oui, elle est magnifique parce que c'est un retour aux sources, mais elle est gâchée par la manière dont ça s'est terminé à cause de la FIA, à cause de la direction de course. Et que dire des spectateurs ? On attend le restart, on nous l'annonce en plus, on nous dit, attention, hein, il va y avoir un dernier tour, et tout le monde le dit, oula, Charles dit, je sais pas si je vais résister, on a arrêté évidemment Lewis Hamilton pour ça, etc. Et finalement, bah, ça fait pchit, il se passe rien. C'est lamentable, c'est honteux, c'est scandaleux, je n'ai pas de mots assez forts, et il y en aura d'autres. Mais pourquoi ne change-t-on pas les règlements ? Ou pourquoi la direction de course ne prend-elle pas d'autres mesures ? Parce que ce sont des incapables et des incompétents. Voilà pour cette partie, mon Kylian.
Arnaud,
moi je trouve, non mais je souscris tout à fait aux propos de Jean-Luc, on ne peut pas voler des moments de sport comme ça. Imaginez, alors évidemment on fait tous référence à Abu Dhabi 2021 avec le titre de Max Verstappen. Imagine, on serait arrivé avec ce même bug informatique et puis là Lewis Hamilton champion, ah, ça aurait fait moins couler d'encre. Mais en fait je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas dire, alors soit effectivement la solution comme dit Jean-Luc, on fait drapeau rouge et on repart, ou
ben
soit
voilà.
On est à 10 tours de la
fin, ils ont le pouvoir de le faire,
soit on est par exemple à 10 tours de la fin, tu calcules, ben on se dit à ce moment-là on est sous régime de voiture de sécurité, mais on gèle le nombre de tours.
Exactement.
On gèle le nombre de tours et au moment
comme
au de l'incident.
Football, du temps additionnel, ouais, et là, on ferait des tours additionnels, pourquoi
au
pas.
Au moment de la sortie de Verstappen dans Stowe, il devait rester 5-6 tours.
5-6 tours de la fin. 5-6 tours.
Et bah, on gèle parce qu'on est très proche de l'arrivée.
Bien sûr.
Tout le monde
bien
est
sûr.
Au courant. On et continue à faire des tours parce qu'on veut faire plutôt un départ lancé qu'un départ arrêté. Et là, ça a pu permettre des changements de pneumatiques pour tout le monde.
Et tu
avec le pari de Russell ou pas. Et une fois qu'il y a safety car ending, au moment de repartir, et ben là, on redéclenche les tours. Je comprends que, par exemple, à 20 tours sur 60, on ne le fasse pas. Mais tu peux très bien déterminer en amont, on est à 25%, s'il reste 20% voilà. de la course,
on établit 15%, les règles.
Je pense qu'à 15%, tu peux faire des tours à 140, tu ne vas pas cramer le carburant, parce que tu as cette notion-là aussi. Mais je pense qu'effectivement, dans des conditions comme ça...
Oui, mais tu l'inclus dans le règlement, Arnaud.
Oui.
Tu dis, dans ce cas-là, le règlement et l'autonomie doivent être de 5 tours supérieurs à la distance de la course. C'est
exactement.
Tout, pour tout le monde. Ce n'est pas compliqué.
Voilà. Et là, je pense qu'on ne peut pas... Nous, on a vu des Grands Prix, Jean-Luc évidemment plus, mais je me mets à la place du nouveau téléspectateur que la F1 et que Liberty ont réussi à convaincre. Et il faut s'en réjouir que la F1 soit de plus en plus populaire. Tu proposes ça. Jean-Luc est à Miami, mais au consommateur américain, il dit « Mais are you fucking killing me, quoi ?» C'est quoi ce truc ? T'as pas le droit à ta fin ? Alors que t'aurais pu avoir justement une fin... incroyable avec des dépassements, c'est la folie, c'est l'urgence, les pneumatiques neufs chez la majorité des pilotes. Et moi, j'étais là, je me dis, ils vont pas nous gâcher la fin du Grand Prix, ils vont pas nous saboter ça. Et bah si.
Mais Jean-Luc, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de continuité ? Est-ce que c'est pas au final la résultante de quelque chose qui est beaucoup plus global ? Je pense notamment, tu as évoqué un mot dans ta première intervention qui était clownesque. Juste pour revenir sur l'ambiance globale de ce Grand Prix, évidemment, ils ont décidé de faire cette parade des
en
pilotes
Lego, ouais.
en Lego.
Oh.
Ça, bon, moi
bah, c'est marrant une fois.
J'adhère parce que je fan de Lego et j'en passe.
Je trouve ça extrêmement marrant. Mais tu joues chez toi avec tes
mais
petits enfants,
autant,
c'est pas pareil.
Pour autant, ce qui est clownesque, c'est la présence de notre ami Mohamed Ben Sulayem qui a fait cette course de cartes avec les pilotes. Mais je t'en prie.
C'est quand même le Gianni Infantino de la F1, mêmes.
Moi, quand tu as évoqué le mot clownesque, j'ai eu cette image-là tout de suite en tête. Est-ce qu'on n'est pas vraiment sur un épisode de plus dans quelque chose qui est extrêmement difficile et douloureux cette année ?
Bon, alors, puisqu'on aborde, j'avais prévu de le faire en troisième et en dernier, parce que c'est bien ce qui mérite d'être dernier, ce personnage ridicule, grotesque, clownesque, tu l'as dit. Bon, écoute, on avait déjà des prémices. Hein. Là, je vais être très dur et je vais être à la limite de la diffamation, évidemment, mais je vais y aller carrément. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir à la FIA, là aussi, on l'a élu. Je ne sais pas dans quelles conditions et je ne veux même pas le savoir, parce que la FIA n'est pas la seule à recourir à ce qu'on appelle des magouilles. On achète des voix, puisque la voix du Clownistan a le même poids que la voix de la Grande-Bretagne, des États-Unis ou de l'Allemagne. Enfin, bon, peu importe, une voix c'est une voix et on sait à quel système on recourt pour être élu. Il a été élu, ok. Et il a commencé à faire le ménage, puisque ceux qu'il n'a pas virés, de manière honteuse, scandaleuse, des gens très compétents qui étaient là depuis longtemps, qui faisaient leur boulot. Alors, on a le droit de changer, de mettre en place sa propre équipe. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas ça le critère. Le critère, c'est qu'il fallait courtiser le souverain, puisque c'est un nouveau souverain qu'on a mis en place. Et la suite nous a démontré qu'on avait raison, puisque, il a fait en sorte de pouvoir être réélu, vous le savez, au-delà d'une troisième fois. On a modifié les statuts de la FIA pour permettre à monsieur, comment il s'appelle ? Ah oui, Ben Sulayem, c'est ça ? De pouvoir être réélu à vie. Donc c'est un dictateur à vie. Ensuite, et dans l'ordre, j'aurais dû commencer par là, il a fait en sorte qu'aucun concurrent ne puisse se présenter aux élections, puisque lui-même, il a modifié ce qui permet d'être élu, puisqu'il faut présenter des vice-présidents, vous le savez, de tous les continents, et qu'il avait verrouillé la situation. Personne n'était en mesure de se présenter contre lui. Mais vous appelez pas ça de la dictature, vous ? Enfin, c'est absolument incroyable. Après, ce personnage, là aussi, est tellement imbu de lui-même que... Mais de quel droit ? Mais j'allais citer... Hein, on a parlé en son temps de Jean-Marie Balestre, mais c'était un nain à côté, en termes de décision à l'emporte-pièce, etc., et complètement invraisemblable. On a parlé de Max Mosley, qui était, vous le savez, qui était, bon, le j'allais dire cul et chemise, parce que l'expression, avec Bernie Ecclestone. Bref, passons.
Jean Todt.
Oui, bah, je préfère pas en parler. Donc, il y a eu tout un tas de règnes, entre guillemets, avec tout un tas de choses personnellement sur lesquelles je préfère ne pas revenir. Mais là, on assiste à quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a mis la main sur une fédération, qui a modifié les règlements et les conditions pour être président à vie. Je dis bien à vie, puisque le dernier écueil qui restait, c'était la limite d'âge à 70 ans, je crois. Lui doit en avoir 65 ou 66.
Bon, il va la faire tomber.
Il est en train de la faire sauter. Donc, il est président à vie, vous m'entendez, parce que personne ne pourra plus jamais être élu à sa place. Mais c'est insensé, ça. C'est quand même... C'est la définition même de la dictature. Bon, vous me voyez venir aussi. Quand vous voyez les pays dans lesquels se balade, maintenant, j'ose dire, la Formule 1, bah, il n'y a pas de surprise, hein. Parce que je sais bien que là aussi, le sport, on va rester là-dessus. C'est le cas du foot, c'est le cas des Jeux Olympiques. Enfin, oui, non, mais des scandales, il y en a partout. Mais moi, mon sport, c'est le sport automobile. C'est la Formule 1. Et je le défendrai, je le dis tout le temps, jusqu'au bout. Et je ne me drape pas ni dans ma carte de presse, ni dans ma dignité. Mais je pense qu'on est quelques-uns à avoir vécu d'autres moments. Et non, ce n'était pas toujours comme ça. Non, ce n'était pas toujours pareil. On arrive à un point pour... en finir avec ce personnage, en finir dans mes propos, parce que c'est aussi, je ne vais plus en parler, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Je vais faire référence là aussi à quelques personnes, Jean-Michel Larquet en football, vous l'entendez souvent tenir des propos du même genre, évidemment Roland Courbis, mon pauvre Roland si tu m'entends, Patrick Tambay, enfin je vais arrêter, je dis simplement ce que je suis encore en mesure de dire, puisqu'on me permet... Merci aux dirigeants d'RMC de toujours nous exprimer. Après, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, je ne le conteste pas. Mais moi, j'avance des arguments. Voilà pour ce sinistre personnage.
Après, si on a le retour des V8 grâce à lui, on dira un petit mot positif quand même, Jean-Luc.
Mais Arnaud, mais là aussi, je le répète tout le temps, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. On est d'accord,
oui.
Il a senti le vent tourner parce qu'il est malin, cet oiseau-là, en plus de tout le reste. Il est malin, il a compris que c'était un échec cuisant. Et mon dernier point, c'est le règlement. Mon Kylian, je sais que ça va être long. Hein.
Je t'en prie,
mais
rapidement,
je vais
comme
la faire
ça,
bref,
après,
et puis j'en parlerai plus.
Et on oublie tout ça, tu as raison.
Je vais faire comme Verstappen, je n'en parlerai plus de ce putain de règlement, parce qu'il n'y a pas d'autre à dire. Ce règlement, il l'a pondu, Bin Sulayem, avec ses sbires, j'allais dire, avec ses complices. On nous l'a vendu, on nous l'a survendu. Depuis 2022, on nous a dit « Ah, oh, ça va être formidable, vous allez voir. » Là, maintenant, alors la Formule 1, là, c'est une autre ère qui débute, etc. On nous l'a survendu. Et puis, bah, moi, j'étais absolument pas convaincu, pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Moi, c'est pas très important. Ce qui est le plus important sont les ingénieurs qui conçoivent les voitures et sont les pilotes. Et les pilotes, quand ils ont été en mesure, avec les fameux simulateurs, de voir à quoi allait ressembler la Formule 1 de 2026, ils ont dit « Oulalalalala, attention !» Mais je vous le répète, comme on est dans une dictature, ben dans une dictature, on n'a pas le droit de parler. Les pilotes signent des contrats avec leur écurie qui leur interdit de critiquer leur écurie. Ça commence comme ça. Et ils signent des contrats avec la FIA pour avoir la fameuse super licence. On leur interdit de critiquer la FIA, la Formule 1 et les règlements. Ben donc, évidemment. Alors certains, ils s'appellent Fernando Alonso et ils s'appellent Max Verstappen, essentiellement, ont osé l'ouvrir parce que, j'allais dire, ils n'en ont plus rien à foutre. Voilà. Et ils ont leur liberté de penser et leur liberté de parole. Et ça, ils ne l'enlèveront jamais tant qu'ils seront là. Parce que les deux, ils vont s'arrêter. On a bien compris que c'était un point tel que Verstappen était écœuré par tout ça. Parce que ce que nous avons cité jusque-là, et je vous dis, c'est tellement long que... Après, je ne veux plus en parler. Les départs, comment on sait... Ah bah là, ils sont bien partis. Ah bah là, ils sont mal. Les pilotes ne savent pas. Mais écoutez, Isaac Hadjar vous dit, on a une procédure à suivre. On la suit scrupuleusement. Des fois, on prend un départ normal. Et d'autres fois, je perds 4 places. Il l'a redit encore en Autriche. Je ne sais pas pourquoi. Même chose pour Antonelli. Les Mercedes, elles partaient pas trop bien. Bon, on a modifié des choses, etc. Ça partait mieux. Bah là, non, ça y est, c'est reparti, c'est le cas de le dire dans le mauvais sens. Mais comment vous appelez un règlement, vous, qui induit le fait que personne, je dis bien, ni les ingénieurs, ni les pilotes, ne sait pourquoi les choses arrivent. Pourquoi une voiture est performante sur un circuit? Pourquoi elle ne l'est pas sur l'autre? Pourquoi dans le même week-end, on est perdu le vendredi et on est super bien le dimanche? Et à l'inverse, ça on peut comprendre, à l'inverse, eh bien, on est très bon le vendredi, dans les mêmes conditions et le dimanche ça marche plus du tout. Mais écoutez, c'est un règlement de merde. Je suis désolé, là je suis grossier, c'est un règlement lamentable. Et la preuve en est, et ça va être mon dernier argument, c'est qu'on est en train de rétro-pédaler, puisqu'on a pris des mesurettes cette année pour limiter les conséquences de cette histoire d'ingurgitation, je préfère utiliser des gros mots comme ça, des mots médicaux, ingurgitation électrique, d'accord, qui vient bouffer de la puissance, et régurgitation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors on parle de déploiement pudiquement, mais c'est quoi le déploiement ? C'est le fait, pour les batteries, de pouvoir rendre la puissance qu'elles ont emmagasinée, on est bien d'accord, au moment où les pilotes en auraient besoin. Mais comment c'est possible en IndyCar ? Je suis également l'IndyCar de très près. Comment c'est possible en IndyCar d'avoir un push-to-pass, vous le savez, qui rajoute 60 chevaux parce qu'on agit que sur le turbo ? C'est-à-dire qu'on met une surpression au turbo, on délivre 60 chevaux et le pilote, il gère comme il veut. Il a un quota de secondes pendant la course et ça nous donne des courses fantastiques comme celle qui a eu lieu à Road America hier. Voilà, je l'ai dit et ce règlement est un règlement stupide, lamentable et j'en termine. Le dernier argument, on va revenir encore plus dessus en 2027 et en 2028. C'est bien pour vous dire que c'est de la merde. Et tu parlais des V8, Arnaud. Bah oui, vivement qu'on en revienne aux moteurs thermiques. Je croise les doigts tous les jours.
Par contre, il y a quelque chose que je voudrais souligner. C'est là, je suis très inquiet pour Max Verstappen. Parce que déjà que la réglementation, évidemment, elle le fait détester cette Formule 1. Là, pour la deuxième fois, visiblement, on a quand même compris que c'est cette Red Bull qui a eu un problème. Donc là, dans Stowe, visiblement, dangereux, je pense que c'est l'aileron arrière qui n'est pas revenu, l'aéroactive qui n'est pas revenu en position normale parce qu'il perd l'arrière. Alors moi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est au freinage ? Mais tu sens que c'est son aileron qui a tout simplement mal fonctionné. Déjà, c'était paradoxalement aussi un virage à droite en qualif sur le circuit de Spielberg en Autriche, là aussi, quand il est parti dans le gravier. Et là, tu sens clairement la façon dont il a jeté un peu son volant, que là, on est peut-être en train de le perdre, ce qui serait, pour la Formule 1, une catastrophe, pas forcément pour le monde du sport automobile, parce qu'il rebondira ailleurs, évidemment, et qu'on le verra toujours au volant d'une voiture, mais j'ai peur
pour
que...
Pour la Formule 1, c'est une catastrophe.
J'ai peur que, là, le point de le vase,
on n'est pas loin
d'eau,
du point de non-retour.
Non. Ouais. Là. Et puis attends, ils l'ont dit, et les pilotes parlent rarement de danger. Hein. Ils ont peur de rien, sinon c'est pas la peine de piloter.
Il l'a dit, Max,
que ça devenait super
dangereux.
Ça va me coûter cher. Et à Spa, vous imaginez un problème comme celui-là, à Spa dans le Raidillon, par exemple, ou dans les grandes courbes, de 250 du retour, moi je préfère pas l'imaginer parce que j'en ai les poils qui se dressent. Parce qu'un jour, il y en a un qui va se faire extrêmement mal, je peux vous le dire, à cause de ces conneries. Et c'est pareil au départ. Je l'ai évoqué combien de fois ce départ, malheureusement, qui a coûté la vie de Riccardo Paletti en 1982. Mais là, c'était des raisons mécaniques. Le embrayage de la Ferrari de Didier Pironi, qui était sur la première ligne, a cassé. Didier ne s'est pas élancé. Il est resté immobilisé. Tout le monde l'a évité, sauf le pauvre Riccardo Paletti, pilote italien de grand talent, qui est venu s'empaler littéralement sur la monoplace. Là, on va avoir le même problème parce que c'est l'informatique qui veut pas libérer le pilote, c'est une honte.
T'as commencé à en parler, Arnaud. On va rebondir sur Max Verstappen. Selon le journal de Telegraph, la situation en interne, en plus chez Red Bull, n'est pas optimale. Max se sentirait incompris par son équipe, mais aussi par ses ingénieurs. Il aurait demandé à faire plusieurs changements ce week-end qui n'auraient pas été écoutés.
On dit plus rien à Lambiadze parce qu'il va partir chez McLaren.
Non plus. Tout à fait. Franchement, ça tourne au ridicule quand même, non ?
Ouais, je pensais pas qu'on, avec l'arrivée de Laurent Méquies l'année dernière, le départ de Christian Horner.
Ça vaut ce que ça vaut, Laurent Méquies qui s'est excusé pour l'énième accident.
Christian Horner qui a remontré sa tronche sur le circuit de Silverstone.
Il était là ce week-end, en effet.
Il vient en voisin, évidemment. L'ami Christian Horner. C'est chez Red Bull. Alors, heureusement qu'avec Isaac, ça se passe bien. Mais je pense que Max Verstappen, ça va au-delà. Il y a clairement un problème parce que la voiture est pas forcément mauvaise. Elle est pas excellente. Mais tu vois, Isaac arrive à performer. Max aussi. Mais là, sur les deux derniers Grands Prix, c'est assez criant qu'il y a un manque de maîtrise parce que lui, en plus, c'est évidemment, il pousse toujours toutes les machines à la limite. Mais Max, c'est vraiment à la limite de la limite. Et oui, l'ambiance n'est pas bonne. On revient avec un espèce de côté un peu délétère. Je ne sais pas comment Red Bull peut s'en sortir de cette situation. Et c'est vrai que le départ de Lambiadze aussi... fait que je pense que Max se sent peut-être moins en confiance, moins à la maison.
Il se retrouve sans vraiment personne qui connaît chez Red Bull, oui, c'est sûr.
je suis inquiet pour ça. Alors après, il faut voir, parce qu'on parle des clauses dans les contrats. Oui, il peut être libre s'il ne termine pas dans les deux premières
le
places.
Avant le summer break.
On ne sait pas, on parle de trois. Oui,
il y a beaucoup de rumeurs. Messieurs, revenons-en aux sportifs. Il y a une légende, évidemment, qui tire la tronche et qui n'est pas loin de s'en aller. On vient d'en parler, c'est Max Verstappen. Mais il y a une autre légende à qui ça a réussi plutôt bien ces derniers temps, c'est Lewis Hamilton. D'ailleurs, pour la première fois, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont partagé le même podium chez Ferrari. Sur les cinq dernières courses, c'est quatre podiums, une victoire. Il n'a plus que 32 points de retard sur Kimi Antonelli, même s'il s'est fait piéger entre guillemets par cette safety car et qu'il aurait pu terminer sur la deuxième place de cette boîte. Il est de retour dans la forme de sa vie, Lewis Hamilton, Jean-Luc.
Absolument. Ah ben écoute, ça, on l'a dit et redit, ça fait plaisir, hein, parce que une belle sorte. Là aussi, il n'y était plus l'an dernier pour diverses raisons que seul lui connaît d'ailleurs. Et il n'y était plus non plus à un moment mentalement, moralement. Je répète quand même qu'il a publiquement, c'était en Hongrie, hein, demandé son remplacement. Il a dit moi je comprendrais qu'on me dise bah c'est terminé, tu t'en vas. Bon, là on le revoit sous son meilleur jour et il a plus le même regard, il a plus la même attitude, il n'a plus les mêmes mots, même quand ça va un petit peu moins bien, comme là où effectivement il a dit gentiment, ben oui, on m'a arrêté, ben oui, parce qu'on pensait que ça allait repartir comme tout le monde, hein, que la course allait repartir pour le dernier tour ou les derniers tours, et c'était donc une bonne idée de l'arrêter, de lui monter des pneus soft, comme on a fait d'ailleurs pour le leader, hein, pour Charles, et puis finalement ben non, ça n'est pas reparti, donc il a perdu la deuxième place au bénéfice de Russell, donc moi je suis évidemment très heureux qu'il n'y a rien de mieux dans une équipe que deux pilotes qui se poussent dans le bon sens, qui s'entendent déjà bien humainement, qui s'apprécient, mais sur la piste, bah, y a pas de pitié. On est là pour se battre et on est là, au contraire, pour déjà battre son équipier. Bah, c'est extrêmement émoustillant. La Scuderia Ferrari n'a jamais marqué autant de points depuis le début de la saison. 51, là, quand même. Hein. On n'en avait marqué que 40 lors du Grand Prix de Chine. Donc, bah, c'est superbe. Écoute, un retour de la Scuderia aux avant-postes avec ces deux pilotes en pleine forme, en pleine confiance, qui vont exploiter au mieux le matériel dont ils disposent. Bah, ça ne peut que nous réjouir.
On a vu pas mal de batailles en course entre Lewis et Kimi, Lewis et Max notamment. Il y a quand même eu quelques petits points noirs. Arnaud, on en a parlé, il y a eu quand même ce léger manque de rythme à un moment pendant le Grand Prix, il y a eu ce faux départ pour lequel il a été sanctionné de 5 secondes, il y a eu cette infraction pendant le drapeau jaune qui finalement ne lui a rien valu. Est-ce que ça a une incidence sur le Lewis qu'on connaît, ou est-ce que c'est juste des broutilles ?
Non, c'est des broutilles. Moi, je ressens surtout un pilote qui est content d'être là, qui a de la joie, je pense, en fait. Il a fallu un an d'adaptation. Tu pars pas de chez Mercedes après une quinzaine d'années, un peu moins, dans une structure où tu connais tout le monde, où Toto Wolff était un peu ton deuxième papa, entre guillemets, le lien très fort. Là, tu arrives chez Ferrari, c'est des Italiens, ce sont des Latins, c'est totalement différent. On sait aussi qu'avec son ingénieur Riccardo Adami, il a changé, il y avait des problèmes de compréhension. Donc voilà, quand tu arrives dans une nouvelle ville, voilà, je sais pas, Kylian, quand tu es arrivé à Paris, que tu connaissais personne, il a fallu du temps d'adaptation.
Il a fallu un peu de temps, en effet. Tu vois, passer du sud à Paris, ça m'a fait mal.
Exactement, voilà, tu dis, tiens, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas machin.
Il n'y a pas la plage.
Moi, je trouve que c'est plutôt un temps de... C'est pas parce que tu es 7 fois champion du monde que tu arrives, tout va te réussir. Non, il a fallu comprendre comment fonctionne Maranello, comprendre aussi que tu arrives, tu as tout de suite la pression de ton contrat, de ton transfert. Et voilà, et je pense que Lewis a apprivoisé tout ça, l'environnement, le côté très démonstratif aussi. Voilà, c'est aussi des sentimotos, les Latins, nous on l'est aussi, les Français. Donc voilà.
Et romantique.
Voilà, romantique, comprendre, quand on voit la joie des ingénieurs, tout le monde forme un tout. Et ça, c'est chapeau à Fred Vasseur d'avoir tenu le cap, parce qu'évidemment, chez Ferrari, ça n'arrête pas de tanguer de tous les côtés, à bâbord, à tribord, où vous voulez, à la proue, à la poupe. Et donc, ça marche bien, la voiture est bonne. C'est vrai qu'on avait un peu critiqué l'année dernière le fait que, ils pensaient beaucoup à 2026. C'est aujourd'hui que tu récoltes les fruits. Ils ont une très bonne voiture. Alors après, est-ce qu'ils pourront aller titiller plus que ça Mercedes ? Il y a encore un petit écart, mais bon, petit à petit, on grignote. Je t'ai dit, moi, exactement, l'ambiance à Mercedes, ça me semble quand même pas excellente, parce que quand tu vois Toto Wolff recadrer tout le monde, et hop, premier George Russell, qui, je pense, vit très mal de voir Kimi Antonelli devant lui, de voir que c'est aussi le petit chouchou de Toto Wolff, parce qu'on se rappelle que George Russell, on a mis du temps avant de lui prolonger son contrat.
Son fils adoptif, moi. Ouais, voilà. Son fils adoptif.
Et pour moi, George Russell, il... il n'est pas si serein que ça, parce que...
Parlons de Mercedes, justement, cette réussite de Ferrari, forcément, ça met une pression monstre sur les épaules de Mercedes. Tu as parlé de George Russell, cette radio à la fin où George Russell se félicite de ce résultat, évidemment, deuxième avec, entre guillemets, la réussite de cette safety car. Mais aussi, il se plaint de la vitesse de pointe qu'il a pu avoir en piste. Et Toto Wolff lui répond qu'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, une sorte de rappel à l'ordre qu'il a pu dire au micro du diffuseur, évidemment. Qu'est-ce qui se passe du côté de George Russell quand il fait deuxième, mais qu'en même temps il arrive à se plaindre? Jean-Luc, c'est quoi? C'est un manque de confiance en lui, en sa monoplace, en son équipe?
Même un peu même problème que Charles, pour d'autres raisons et avec un timing différent. Je crois que non. Il a maintenant, c'est un pilote expérimenté comme Charles. Il a 28 ans et il est chez Mercedes depuis de nombreuses saisons. On rappelle quand même là aussi, moi j'aime bien rappeler ça parce qu'il a compris à qui il avait affaire. Quand il avait remplacé pour cause de maladie Lewis, vous vous en souvenez très bien, en fin de saison, il était en passe de remporter son premier Grand Prix sous les couleurs Mercedes. Et comme par hasard, Mercedes s'est planté lamentablement sur la stratégie. Vous vous souvenez de ça très bien. Et l'a fait rappeler, repasser au moins deux fois au stand à des moments invraisemblables. Bon, il pleurait le pauvre à l'arrivée. Vous vous souvenez de cette image-là? Bon, là, il a compris à qui il avait affaire. Toto Wolff, c'est pareil. C'est une main d'acier, d'airain, dans un gant de velours et des grands sourires communicatifs. Mais il sait très bien à qui il a affaire depuis le début, pour des raisons qui ne nous regardent pas. Toto Wolff n'a jamais véritablement, à mes yeux, considéré George Russell comme un champion potentiel. Jamais, je dis bien. Il avait son chouchou qui était évidemment Lewis Hamilton, contre lequel Russell ne pouvait absolument pas lutter. Il a décidé d'aller ailleurs et d'ailleurs... Il n'en a pas voulu, pourtant, je crois qu'il l'a prévenu au dernier moment. Hein. Même Toto Wolff, il a découvert que Hamilton partait chez Ferrari au tout dernier moment. À l'époque, vous vous souvenez un peu du sourire un peu figé aussi, la soupe à la grimace. Mais bon, il n'en a pas voulu. La preuve, ils sont complices comme jamais. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à Russell, qui de surcroît a traversé une période noire lui aussi, où il a été accablé, comme il l'a dit très justement, vous avez écouté son interview après le Grand Prix, il a dit « j'aurais préféré gagner le Grand Prix du Canada, là je suis deuxième, mais sincèrement je ne le mérite pas, j'avais pas la performance dans la voiture et moi-même ça n'allait pas comme ça devrait, je suis deuxième ». Mais là aussi, et ça va s'appliquer à tout ce qu'on va dire des pilotes qui suivent, hein, quand vous enlevez déjà Antonelli qui aurait dû au minimum finir sur le podium, voire gagner le Grand Prix, quand vous appelez Piastri éliminé dès le départ par des collisions, quand vous enlevez enfin des éléments tellement important, Verstappen, évidemment, vous en enlevez trois qui auraient dû se trouver dans les cinq premiers. Bah évidemment, tous ceux qui sont derrière, ils avancent d'un cran. Et Russell, il l'a dit, j'aurais mérité de finir 4 ou 5e, un petit peu devant les McLaren. Il est très lucide, hein, et je pense qu'il est assez désabusé, effectivement, sur l'issue de la saison. Et tu parlais d'ambiance générale, bah oui, c'est évident que les débriefings, ça doit pas être très très chaleureux. Hein. Et ça se ressent dans une équipe. Là, c'est une véritable concurrence, et vous verrez bien qu'en piste, malheureusement, je dirais, parce que ça va conduire l'un ou l'autre, ou peut-être l'un et l'autre, à quelques comportements un peu plus rugueux qu'il ne serait raisonnable entre équipiers.
Surtout qu'au-delà de ça, Arnaud, ça commence à faire quand même beaucoup du côté de chez Mercedes, notamment du côté de chez Antonelli, qui avait déjà dû abandonner en Catalogne, qui là n'est pas passé très loin de l'abandon non plus, on l'a répété, qui a dû passer plusieurs fois au stand. Même pour Kimi Antonelli, l'ambiance n'est plus vraiment à la fête.
Oui, même si c'est peut-être juste passager, mais c'est vrai, zéro pointé en Catalogne, zéro pointé là, tu rajoutes le zéro pointé de Russell à Monaco. Quand je te disais que contrairement à Ferrari qui arrive quasiment à scorer à chaque Grand Prix...
Heureusement qu'il prend les points de la sprint.
Exactement.
Heureusement.
Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc. Et il a raison de rappeler, parce que je crois que c'est Lewis avait le Covid et donc c'est Russell ça. L'avait remplacé dans un baquet. Finalement, l'histoire de Russell avec Mercedes, c'est un mal-aimé. Et j'ai l'impression que l'histoire, un jour, elle va s'écrire, Russell, il va aller chez McLaren. Parce que je ne suis pas sûr qu'il regarde Norris et Piastri. On en parle beaucoup, il y a des rumeurs, des échanges, oui, etc. Et je pense que finalement, peut-être que la place de Russell sera dans une véritable équipe britannique. Bon, Mercedes l'est en partie, hein. C'est en pas partie, uniquement ouais. une équipe allemande.
En tout cas, c'est pas une équipe allemande, non.
Non,
c'est
non,
une équipe britannique.
Avec un Autrichien à sa tête. Mais ouais. Je pense que oui, c'est l'histoire de Russell le mal-aimé, qui peut-être voit aussi que Kimi Antonelli est déjà prêt pour être champion du monde, alors que je pense que Russell, à l'image de Norris et Piastri, Loris l'année dernière. Russell se disait, ça c'est mon année, quoi qu'il arrive, je vais la prendre. C'est moi le numéro 1 dans la meilleure voiture. Bah, finalement, alors la meilleure voiture, bah, oui, elle l'est encore. Numéro 1, bah non, c'est plus forcément lui. Non. Et vu la dynamique de Kimi Antonelli, quand bien même il n'a pas scoré deux fois sur les trois derniers Grands Prix, ça reste lui le leader au classement du championnat du monde des pilotes.
Jean-Luc, en plus de ça, cette image de Kimi Antonelli qui refuse à tout prix d'abandonner, qui veut continuer à potentiellement aller grappiller des points, ce qu'il n'a pas pu faire en raison d'une pénalité pour trop de sorties de piste. Mais est-ce que cette image qu'il a renvoyée de « je n'abandonnerai pas », ça prouve aussi le mental qu'il peut avoir pour potentiellement aller chercher un titre de champion du monde dès cette année ?
Mais complètement, Kylian. Bah, c'est une graine de champion, hein, de champion du monde, évidemment. C'est une évidence absolue. Ce gamin, moi, il me bluffe à chaque fois.
Il y a du Sénat un peu. Beau gosse, machin, j'ai mon écurie avec moi, j'ai le public. Quand tu vois le flegme et cassant de Russell, tu trouves pas un peu ça, Jean-Luc ?
Si, bah il est attachant ce gamin, moi je le dis tout le temps. Puis en plus, pour le moment, pourvu que ça dure, là aussi, je croise les doigts en parlant, il garde cette fraîcheur, cette spontanéité, il se prend pas pour un autre, justement, pourvu qu'il se prenne pas pour un champion du monde quand il le sera, c'est-à-dire peut-être très vite, très bientôt. Non, j'entends par là que c'est réjouissant quoi, de le voir, la manière dont il spontanément, dont il dit les choses, dont il... On le voit pas du tout manichéen pour le moment. J'espère qu'il va pas être corrompu par le système, je le dis, parce que il y a un très mauvais côté dans la Formule 1 et dans le star system tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Pour le moment, je le trouve fondamentalement sain, ce gamin, permettez-moi quand même, à 19 ans, on peut encore dire que c'est un gamin, hein, mais il a un talent fou, il a une tête bien faite, il apprend de ses erreurs, ça s'appelle l'expérience qu'il accumule. Évidemment que s'il n'est pas champion du monde cette année, bah, tant qu'il aura une voiture pour le faire, ce sera quelqu'un qui se battra pour le titre jusqu'au bout. Alors, il a démontré sa compétitivité. Son équipe lui disait ben, « on va se retirer ». Il dit « non, s'il y a un point à prendre, je vais le chercher ». Par parenthèse, et je vais encore en mettre un coup derrière les oreilles de la FIA, quelle aberration ! On lui met des pénalités parce qu'il a quitté la route. Mais le pauvre, avec les problèmes qu'il avait, il se battait comme un chien. Ben oui, quelquefois, il a un peu dépassé les limites. Mais c'était absolument pas volontaire et absolument pas pour gagner du temps. C'était pour pas se fracasser dans le rail. Donc, c'est des gens qui n'ont rien compris, eux, à la course automobile. Et manifestement, Kimi Antonelli, lui, il a tout compris.
Un mot, messieurs, tu parles d'un jeune avec la tête bien faite. Moi, je suis assez chauvin. Ça me fait penser quand même à Isaac Hadjar, qui, je pense aussi, a la tête bien faite et a énormément de talent. Lui qui a enchaîné un cinquième top 6 consécutif, cinquième de ce Grand Prix. Il est devant Max en qualif. On va l'écouter d'abord, ce qu'il retient de son Grand Prix, et je vous fais réagir juste après.
Moi, je dirais les premiers tours et ensuite le dernier stint en médium. Là, il y avait beaucoup de rythme et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais honnêtement, j'étais bien dans ma course. J'avais beaucoup de rythme, mais il y a eu une énorme chute, une grosse perte de rythme. Même quand j'ai mis les pneus neufs, les hard, j'avais pas l'impression d'avoir mis des pneus neufs. Et quand on a fait notre dernier arrêt pour mettre les nouveaux pneus et on a fait un changement d'aileron parce qu'on voyait qu'on perdait de la charge pendant la course, bah là c'était beaucoup mieux. Donc j'ai un peu l'impression d'être passé à côté d'une bonne course parce que on fait 80% de la course complètement arrêté. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même pas mal de points. Non, honnêtement, je suis plus content de ce week-end-là que du Red Bull Ring. Je pense que le rythme sur un tour était très bon. Je pense que bon, il y a quelques bons moments en course où je sens que j'ai du rythme. Les premiers tours, et comme j'ai dit, les derniers tours ont été très, très rapides. Mais je pense qu'au final, c'était un week-end assez complet. Bon, faut juste continuer à bosser sur les départs. C'était un peu mieux aujourd'hui. Mais voilà, faut continuer.
Jean-Luc, cinquième de ce Grand Prix. Il fait encore une fois une nouvelle perf remarquable, malgré encore une fois le fait des abandons et des faits de course. Mais on sent quand même un peu de frustration. Et malgré tout, on sent qu'il a quand même de plus en plus, je trouve, de maîtrise de soi-même. Qu'est-ce que tu en penses ?
Absolument. Ben, j'avais dit lors du dernier Grand Prix, tu t'en souviens peut-être, moi je m'en souviens, qu'il était très solide. On m'avait dit il est solide. Non, j'ai dit il est très solide. Je fais plus que confirmer, c'est-à-dire il est très très solide. Et effectivement, il est en train, le seul petit, pas reproche, conseil que je pouvais lui donner, c'était de gagner en sérénité. C'est ce qu'il est en train de gagner. Donc c'est formidable. Dans une équipe, comme vous l'avez évoqué, nous l'avons évoqué, qui est un petit peu perturbé actuellement par les problèmes que rencontre son leader historique, je dirais, hein, à divers niveaux. Une équipe qui est en recomposition, on va dire ça comme ça, une monoplace qui parfois est performante et d'autres fois ne l'est moins. Et comme l'a dit, là aussi, c'est ça qui est incompréhensible. J'ai tout sous les yeux. Hein. Isaac qui fait un premier relais de 20 tours en médium et qui est bon, entre bon et très bon, il est impeccable. Bon, tout va bien. Petite passe d'armes même avec son équipier, mais tout va bien. Ensuite, il monte les hards et là, ça va beaucoup moins bien. Pendant 19 tours, effectivement, et on l'a compris, il est en dedans. Et puis ensuite, il remonte des médiums, alors pour une dizaine de tours, hein, entre le 39e et le 48e tour. Et là, il retrouve de la compétitivité et de l'allant. Ben, c'est très bien de savoir tout accepter, de savoir tout gérer. C'est comme ça qu'il va continuer à progresser, puisqu'évidemment, il a encore à progresser. Et puis, à profiter peut-être du fait que ben, celui qui était son leader est peut-être en passe,
c'est ce que j'allais dire.
Je ne dirais pas de ne plus l'être, mais d'un vide. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Donc si effectivement lui est très solide, surtout qu'attention, hein, il y a derrière lui, pas loin du tout, avec une monoplace qu'il connaît bien mais qui n'a rien à voir, je parle évidemment des Racing Bull, deux pilotes très performants, Liam Lawson, il s'est rebecté, vous me pardonnerez le mot, pour une fois j'utilise pas un mot, j'allais dire, culturellement intéressant, il s'est refait une santé, il s'est refait un moral, et puis un Arvin Lindblad, lui, je vous le dis depuis le début, c'est une perle. C'est également un pilote solide, à 18 ans, rapide, constant, qui exploite et qui challenge son équipier. Je peux vous dire que si les deux, on les remettait dans une Red Bull, je ne sais pas ce qu'il ferait avec, mais il ferait des bons résultats. Donc pour en revenir à Isaac, c'est formidable ce qu'il fait, continue comme ça.
Bon, ils vont peut-être y aller dans pas très longtemps dans une Red Bull. Si jamais Max s'en va, il y aura peut-être jeu de chaises musicales. Ils ont fini 6 et 7, les pilotes de Racing
Bull. Moi, ce que je trouve bien pour Isaac, alors on le sait, en course, il a toujours eu la vitesse et tout, mais en qualif, il avait toujours été un petit peu derrière Max, je trouvais. Et là, tu vois, Q1, Q2, Q3, il colle à chaque fois un dixième à Max Verstappen. Allez trouver les coéquipiers de Max Verstappen qui arrivent à être sur les trois sessions, être un dixième plus vite. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est de pouvoir rivaliser. On se le disait, en qualif, soit proche de Max, mais être devant d'un dixième, surtout en plus à Silverstone, où voilà, c'est un circuit 90 secondes à peu près. Voilà, c'est pas aussi rapide que Spielberg, mais il arrive à être là, à être très rapide en qualif, ce qui peut-être lui manquait un peu, voilà, pour partir sur des meilleures positions en grille. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et Jean-Luc a raison. Moi, je parle même de maturité. C'est normal, ça reste. Il est tout jeune encore, Isaac Hadjar. Hein.
Bien sûr. Il va avoir 22 ans.
Exactement. Et dans son discours, où effectivement, il pouvait être démonstratif, mais parce qu'on parle de Charles Leclerc en début d'émission, démonstratif mais un peu différent, mais il s'exposait presque plus.
Totalement.
Discours vraiment posé, à l'image de son pilotage que l'on connaît depuis deux saisons désormais, donc franchement conquis par Isaac Hadjar. Et je voudrais quand même dire, alors c'est un week-end un peu moins bien pour Pierre Gasly, mais il n'y avait qu'un point d'écart entre Hadjar et Gasly au classement du monde des pilotes. Bon là, un seul point pour Pierre et 10 points pour Isaac, donc là il y a 10 points d'écart, 52-42 au classement des pilotes, mais très content de voir encore Pierre faire des top 10 aussi. Voilà, pour nos Français, c'est un peu moins bien pour Esteban, mais voilà, nos tricolores sont là, quoi.
Jean-Luc, un mot sur la perf entre guillemets de Pierre Gasly qui arrive tout de même à finir dans les points, même s'il s'est fait dépasser dans la voie des stands par son coéquipier.
Bah écoute, il aurait dû partir 12e, hein, on le sait, et puis il a pris une pénalité à cause d'un problème de radio, vous le savez, pendant les essais où il a gêné un autre pilote. Donc là aussi, on a appliqué le règlement et c'est normal, il n'y a rien à dire. On a vu les images, hein, il a vraiment empêché un autre pilote de faire une bonne performance. Donc il prend 3 places, il part 15e, et c'est l'extraordinaire capacité de Pierre de toujours résister et de savoir en course revenir d'où qu'il parte, où qu'il soit. Eh bien, il est capable effectivement de se refaire une santé. Il l'a encore démontré magnifiquement. Alors, c'est pas du tout une critique, mais un tout petit peu moins que Colapinto, hein, qui part 19e, c'est ahurissant.
À la remontée, elle est folle.
Et ouais, et il finit 9e, il finit devant Pierre. Alors bon, il y a des raisons à cela, Pierre a eu un mauvais arrêt aussi, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet, mais je veux dire, Pierre, solide, très solide, encore une fois, méritant évidemment une meilleure monoplace que celle-là. Là aussi, alors ce qui m'a... Alors un petit mot pour terminer quand même avec de l'humour, parce qu'on a été, je sais, dur, tragique un peu dans ce paddock. C'est Briatore. Ça y est, il a avoué que c'était une équipe anglaise, parce qu'il a dit dans sa déclaration officielle, dans le communiqué, oh ben on n'était pas loin de la maison et tout, ça fait plaisir.
Depuis
et ben, ça
le temps
y est,
qu'on vous
Alpine
le dit qu'elle
est une
plus
équipe
française.
Anglaise. Voilà, au moins c'est assumé.
Un petit mot d'Esteban Ocon quand même, qui finit, si je ne m'abuse, 13e de ce Grand Prix, et qui, dans sa déclaration, a quand même établi qu'il y avait énormément de mieux dans ce Grand Prix, Jean-Luc.
Oui, oui. Bah, Esteban, alors là, c'est pareil, c'est le point délicat, hein, parce que on sent bien dans les déclarations, on sent bien dans tout que il y a quand même malgré tout toujours ce petit problème. Bah, en qualif, il est toujours derrière Berman, hein, pratiquement. J'ai pas regardé tout le détail. Je vois une fois peut-être il a été devant, mais là il est bien derrière. Donc ça veut dire que Berman est 13 sur la grille, alors qu'Esteban part 17. En course, il est toujours meilleur. Il est solide, il est rapide, il exploite toutes les possibilités. Malheureusement, lui aussi, il a eu, on va dire, des malheurs, mais il progresse dans le classement. Il termine juste derrière Berman, justement. Je crains que ce ne soit pas assez. On va commencer à en parler. Je sais qu'il déteste ça, il a raison. C'est trop tôt pour parler de quoi que ce soit pour l'avenir de Haas. Mais là aussi, il y a beaucoup de monde qui piaffe dans les starting blocks. Il y a d'excellents pilotes de Formule 2. Puis il va y avoir un jeu de chaises musicales, on vient de l'évoquer rapidement, qui peut être terrible si jamais Verstappen libérait son baquet, parce que là, bon, chez Ferrari, ça ne bougera pas. Chez Mercedes, a priori, à moins d'un énorme coup de théâtre, ça ne bougerait pas non plus. Non plus chez McLaren. Mais alors derrière, je peux vous dire, ça va être la samba. Hein. Là, la silly season, là, elle est déjà commencée et elle n'est pas prête de se terminer.
Elle te hype, cette silly season, Arnaud ?
Oui, bon, après, on va voir. Est-ce que ça dépend si le premier domino Verstappen tombe ?
C'est ça.
C'est derrière, non, sur Esteban. Bon, il n'a toujours pas battu en course Oliver Berman cette saison, même si là, il n'y a qu'une seule place d'écart. Il n'est pas très loin, mais quand tu fais venir Esteban Ocon, tu attends évidemment un peu plus chez Haas. Donc, c'est pour ça que le climat est pas évident, et que ce qui va être pilote Haas l'année prochaine, ça, c'est quand même un gros point d'interrogation. Et on veut le garder en F1, on veut garder nos trois pilotes français en F1. Je ne sais pas où il peut aller. Est-ce que Haas va vouloir un pilote un peu plus chevronné ? Est-ce qu'ils ont les moyens aussi ? Ce n'est pas non plus une écurie qui est... C'est Crésus, hein. Ce n'est pas Crésus non plus. Hein.
Ouais, mais il y a Toyota derrière maintenant.
Hein. Et il y a Toyota, et oui. On préfère évidemment écoute, des pilotes qui viennent de l'archipel nippon.
Donc ça, oui, aussi, et ça peut. Il y en a un qui est, comme tu le sais, le troisième pilote qui a participé, qui tient bien sa place. Hein.
Donc, à voir, oui, Hirakawa, qui est là juste derrière. Donc, je suis toujours aussi inquiet. Après, il y a la silly season, puis c'est pas interdit de faire une deuxième partie de saison incroyable.
Ah,
hein.
Bah voilà.
Ah, bah, voilà. Là, on arrive aussi, il y a Spa qui arrive, il y a des super circuits. Écoute, voilà. On en a vu. Hey, souvenez-vous, l'année dernière, oh, McLaren, oh, bah oui, vrai de champion, ça sera Norris ou Piastri, c'est plié et tout. Bon. Alors au final, c'était plié pour Norris, mais
il peut s'en passer des choses encore. C'est ça que tu veux nous dire, Arnaud. C'était très dense en tout cas, ce podcast. Il y avait énormément de choses à raconter sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Juste pour ne pas faire offense à un champion du monde, vous dire que Lando Norris a fini 3e, on n'en a pas parlé, lui.
Ah, c'est vrai, il était là, oui.
Ah, c'est vrai, il est champion du monde.
C'est vrai, il est champion du monde aussi. On l'oublie trop souvent.
Attends,
entre Lando
Norris, il a fini 4e derrière Hamilton.
Oui. 4e, pardon, 4e, oui, malgré.
Mais tu vois, tu l'avais pas reconnu.
Je me suis trompé en plus. Quatrième, qui fait quand même un sacré week-end quand on compare à la qualité de sa McLaren, lui qui s'en est plein encore et encore, et qui fait troisième, c'est pour ça que je me suis trompé sur la course sprint, Lando Norris.
Voilà.
C'est là mon erreur. Merci messieurs, merci Arnaud, merci Jean-Luc pour cet épisode, ce débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Et attention, le prochain c'est Spa-Francorchamps.
Exactement, on quitte un circuit mythique pour en retrouver un autre, mon Jean-Luc.
Voilà, c'est un vrai bonheur. Écoute, je m'en pourlèche les babines à l'avance.
Allez, on se retrouve dans un peu moins de 2 semaines pour le warm-up de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. Salut à tous.
Le paddock RMC.